Mais Seigneur, ta parole, elle est puissante comme un marteau qui casse le rocher, mais aussi très douce comme une pluie qui descend tout doucement dans un sol altéré pour que ce sol puisse produire toutes les moissons dont il est porteur. Alors nous te prions bien ouvrir nos cœurs en ouvrant nos oreilles, nos yeux intérieurs à ton amour en Christ. Que nous le voyons, que nous puissions nous lever et marcher à sa suite. Amen. Part du verset qui se trouve dans Matthieu 8, au verset 26. Matthieu 8, verset 26. Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous peureux, ayant si peu de foi ?» On pourrait croire là à une farce, parce que si on lit tout le texte, on voit que les disciples étaient à l'article de la mort et que leur barque allait être submergée par les vagues. Et Jésus leur reproche leur peur. Oui, mais Jésus n'a pas l'habitude de faire des farces. Bon, bien sûr, il connaît l'humour, mais là, il ne s'agit pas d'humour. En grec, la phrase tient en cinq mots, « Ti deiloi este oligopistoi », quatre mots seulement d'ailleurs, ce qui se traduit littéralement « Pourquoi êtes-vous peureux, si peu croyants ?» Ce mot « peureux » n'apparaît qu'une seule autre fois dans la Bible, dans Apocalypse 21, au verset 8. Apocalypse 21, verset 8, c'est en tête d'une liste de gens exclus de la Jérusalem céleste. Quant aux peureux, aux infidèles, aux dépravés, aux meurtriers, aux impudiques, aux magiciens, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part se trouve dans les temps embrasés de feu et de soufre. C'est la seconde mort. Donc vous voyez que là, le mot « peureux » est en tête de la liste des pécheurs, et non pas les débauchés comme nous, on aurait tendance à le faire. Ils sont en cinquième position. Les peureux n'ont pas accès à la Jérusalem céleste, à la source d'eau vive. Donc il importe vraiment de nous affermir dans la foi, car c'est par elle qu'on entre dans la Jérusalem céleste. Nous débarrasser de la peur. Et la première peur qui est mentionnée dans la Bible se trouve dans Genèse 3, verset 10. Adam et Ève disent au Seigneur, Genèse 3, verset 10, j'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai pris peur, car j'étais nu, je me suis caché. Donc vous voyez, cette peur est donc la première mentionnée dans la Bible, donc ça veut dire qu'elle est profondément gravée en nous, dans chaque être humain. Nous devons lutter contre la peur de parler avec Dieu. Et parfois, on entretient notre peur de parler avec Dieu. On l'entretient même avec des versets de la Bible. Dieu est saint, mais à d'autres versets comme Proverbe 9, verset 10, la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Oui, mais ce verset, il ne faut pas mal l'interpréter au point d'avoir peur de parler avec Dieu. La crainte de Dieu, bien comprise, ne nous éloigne pas de Dieu. Elle nous jette dans ses bras. Et je le trouve dans le psaume 130, cette certitude que la crainte de Dieu nous fait aller vers Dieu et non pas avoir peur de Dieu pour se cacher de Dieu. Psaume 130, verset 4. Psaume 130, verset 4. Ce psaume est très connu car en latin ça se dit « De profundis » le début, donc c'est marqué sur beaucoup de tombes autrefois, puis maintenant, mais autrefois. On avait encore un certain respect de la parole de Dieu. Alors, psaume 130, verset 4, il y a cette phrase qui vraiment m'a attiré. Mais tu disposes du pardon et l'on te craindra. Tu disposes du pardon et l'on te craindra. Voyez que là, que la crainte de Dieu vient du fait qu'il pardonne et non pas qu'il nous rejette. Et c'est ça qu'il faut vraiment tenir fermement. La crainte de Dieu nous fait aller vers Dieu, parler avec lui, car lui seul dispose du pardon. Il y a des gens qui ne se pardonnent pas à eux-mêmes certaines fautes. Si elles comprenaient que Dieu dispose du pardon, elles viendraient vers Dieu. Et elles revivraient. Oui, nous pouvons entretenir notre peur de Dieu parfois avec des versets bibliques mal compris. Le diable sait utiliser aussi des versets bibliques. Il a bien utilisé un verset biblique pour tenter Jésus au désert. Par exemple, on peut aussi prendre tous les versets qui nous parlent du sérieux du péché. On a reproché à l'Église d'exagérer le péché et on est tombé dans l'extrême opposé. Maintenant, on ne veut plus entendre parler de péché parce que l'Église aurait culpabilisé les gens pendant des siècles. Tout ça, ça amuse bien le diable, qu'on passe d'un extrême à l'autre. La Bible parle avec sérieux du péché, mais elle parle avec sérieux du pardon. Et dans ce sens, la Bible est vraiment libératrice. Elle ne nie pas que Dieu est saint, elle ne nie pas que nous sommes des pécheurs et que nous faisons des péchés, mais elle ne nie pas non plus le sérieux du pardon. La réalité que Dieu est notre Père qui pardonne. Voilà donc la première peur contre laquelle nous devons lutter, c'est la peur de Dieu. Sous prétexte que nous sommes pécheurs. Qu'est-ce que dit la Bible ? Dieu nous a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Qu'est-ce qu'il peut donner de plus ? Pour prouver qu'il aime et qu'il ne rejette pas l'homme. Ça nous a été dit aussi dans le psaume 145. Je suis vraiment étonné. J'écoute attentivement, même si j'ai déjà lu, que Dieu aime tendrement chacune de ses créatures. C'est marqué dans le psaume 145, c'est marqué dedans. Il aime tendrement chacune de ses créatures. Maintenant, il y a encore eu d'autres peurs. J'ai terminé avec cette première peur qui est enracinée en nous, que nous ne devons pas laisser grandir ou laisser avoir de l'influence sur nous au point de nous éloigner de Dieu. N'ayons pas peur de parler avec Dieu. La deuxième peur, dont je veux parler, il y a certainement beaucoup de peurs, mais moi je veux parler de celle-là maintenant, c'est la peur de suivre Jésus. Parce que les disciples, s'ils étaient là dans cette barque et qu'ils ont failli se noyer, c'est parce qu'ils ont suivi Jésus qui était entré le premier dans cette barque. Donc s'ils étaient restés tranquillement sur la berge ou rentrés chez eux à la maison, ben, ils n'auraient pas eu la peur qu'ils ont vécue là, avec la tempête sur le lac de Galilée. C'est pas un petit lac, hein. Et les tempêtes, on a vu, nous, ceux qui sont allés en Israël, c'est une cuvette, ce lac de Galilée, donc il y a des tempêtes très brusques, alors que tout était calme quelques minutes avant, et on peut se noyer. Donc les disciples étaient bien là, mis dans une situation où ils avaient vraiment peur, parce qu'ils avaient suivi Jésus. Et puis ils ont eu plusieurs fois comme ça des peurs en suivant Jésus. Et la pire, ça a été quand Jésus a décidé d'aller à Jérusalem, la ville de tous les dangers. Écoutons comment les disciples réagissent dans Jean 11, verset 8. On sent vraiment l'angoisse dans ce qu'ils disent. « Rabbi, tout récemment encore, les Juifs cherchaient à te lapider. Et tu veux retourner là-bas ?» La réponse de Jésus, un peu difficile à comprendre. Parfois, on trouve qu'il ne répond pas tout à fait. Mais si, si, si. Il faut étudier. Et la réponse de Jésus est qu'il fait encore jour. C'est le moment de marcher. Ils ont encore la lumière de ce monde et est là. Ça, c'est la réponse de Jésus dans Jean 11, verset 9. Donc Jésus leur dit, nous pouvons y aller. C'est la lumière du monde qui est encore là. C'est lui-même, d'ailleurs. Donc avec Jésus, nous pouvons aller où nous n'aurions pas osé aller par nous-mêmes. Et d'ailleurs, Jésus parle très clairement qu'il ne nous mettra pas dans des situations faciles là où il nous envoie. Matthieu 10, verset 16, « Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. » On peut dire, mais il est fou. Non, il n'est pas fou. Il est lui-même là. Alors, qu'est-ce qu'on a à craindre? Et lui-même est tout le temps là en priant pour nous. Nous avons la prière de Jésus. Nous avons une grande chance de savoir comment Jésus prie aujourd'hui. Depuis toute l'éternité, pour toute l'éternité, qu'on est sûr que tant qu'il y aura des êtres humains sur terre, il y a Jésus qui prie pour eux. Et cette prière, nous l'avons dans Jean 17, au verset 16. Père, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les garder du mauvais, du mal, avec un M majuscule, du mauvais, personnalisé. Je te demande de les garder du mauvais. Jésus prie pour nous en tout temps, tout en sachant qu'il nous a envoyés comme des brebis au milieu des loups. Et cette prière de Jésus, c'est sérieux. Ça devrait nous suffire pour apaiser nos cœurs. Et puis, c'est normal qu'on est au milieu des loups. Nous, on était aussi des loups. On était dangereux pour les autres. Moi, j'étais dangereux pour les autres. Hein. Et je le suis encore, parfois. Hein. On est parfois encore des loups. Et il faut bien que les loups voient qu'est-ce que c'est des brebis pour qu'un jour, ils deviennent eux aussi des brebis. Et le psaume 23, qui nous compare à des brebis, avec le Seigneur comme berger, et il dit que Dieu dresse une table devant les prédateurs, nos potentiels prédateurs. Dieu a dressé une table. Tu dresses une table en face de mes adversaires, de mes ennemis. Et la table, ça évoque vraiment un délassement. Je ne sais pas comment c'est pour vous, mais à table, normalement, on se détend. Et voilà, devant les ennemis, Jésus dresse une table. Ils sont là, les ennemis, mais Jésus est là. Il a dressé la table, il est là. J'avais une fois partagé cela à une étude biblique, un paroissien. Il a tout d'un coup réalisé ce que ça voulait dire, tu dresses une table. Parce que lui, il croyait que il s'emparait de la table verticalement, comme ça, comme un bouclier. Non, c'est une table qui est dressée, en français, dresser la table, ça veut dire mettre la nappe, mettre les couverts et tout. Psaume 23, verset 5, devant moi, tu dresses une table face à mes adversaires. Comment ne pas être peureux? Eh bien, cessons de nous regarder. Regardons Jésus. Parce que si nous regardons ce que nous sommes capables de faire, si nous fixons notre attention sur nous-mêmes, eh bien, c'est vite la peur qui gagne. Mais si nous regardons à Jésus, alors on commence à s'oublier. Et on commence même à avoir un certain humour avec nos peurs. Nous ne pouvons pas nous enlever nos peurs, mais Jésus peut le faire. Il nous faut donc le connaître toujours mieux dans la puissance de sa résurrection. Ceux qui, comme Paul, l'apôtre, connaissent bien cette puissance de résurrection de Jésus, sont, aux yeux des hommes, des faibles, des gens de peu d'importance, des gens de peu de force. Car bien souvent, Paul, qui connaît cette puissance de la résurrection, ça ne l'a pas mis en état de force. Il dit même dans 2 Corinthiens 1, verset 20, qu'à un moment, il a même cessé d'espérer en la vie. Il a accepté que c'était fini avec sa vie. Ça, c'est marqué dans 2 Corinthiens 1, 9. Et il a dit, comme ça, c'est la résurrection qui s'est exprimée. La résurrection qui l'a fait aller de l'avant dans une situation, il ne précise pas exactement laquelle, mais c'était une situation où c'était plus possible. Alors la résurrection a pris le relais. Par la mort de Jésus ainsi que nous portons en nous, l'apôtre Paul dit, c'est aussi la résurrection qui se répand dans le monde. La croix n'est pas seulement quelque chose que nous prêchons, c'est quelque chose que nous incarnons. Mais en même temps, nous incarnons cette résurrection, cette vie éternelle qui se répand. C'est le sens de ce que Paul dit dans Philippiens au chapitre 3, versets 10 et 11. Écoutez, parce que c'est un petit peu difficile à comprendre, mais il faut suivre les phrases. Il s'agit, Paul dit, il s'agit de le connaître, lui, et la puissance de sa résurrection, et la communion à ses souffrances. De devenir semblable à lui dans sa mort, afin de parvenir, s'il est possible, à la résurrection d'entre les morts. Ce qui est intéressant dans ce que Paul dit là, commence par la résurrection, continue par la mort, et aboutit de nouveau à la résurrection. Nous ne pouvons pas aller par nous-mêmes dans la faiblesse qu'est la mort de Jésus, ou la souffrance que ça représente, mais avec la force, la résurrection, oui. D'abord connaître la force de la résurrection, pour accepter toutes ces situations que les apôtres ont vécues, où ils auraient eu vraiment peur, toutes les raisons d'avoir peur. Mais Il y avait la force de la résurrection en eux. Ils ont accepté des situations de souffrance, de faiblesse. Et la résurrection a surgi pour le monde. Ils avaient les yeux fixés sur celui qui est ressuscité, qui est maintenant à la droite de Dieu, au-dessus de toute autorité, pouvoir, puissance, souveraineté et de tout autre nom qui puisse être nommé, non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir, Éphésiens 1, 21. Jésus est au-dessus de toutes ces puissances, de toutes ces forces qui pourraient être des forces pour nous de mort. Il est plus au-dessus de tous, de toutes ces forces. Et c'est intéressant que Paul, dans Éphésiens 1, 21, dit « Non seulement dans ce monde, mais encore dans le monde à venir. » Dans ce qui vient après la mort, dans le monde à venir, il y a des forces que nous ne connaissons pas. Mais quelles qu'elles soient, Jésus est au-dessus. Jésus est encore au-dessus. Et c'est à lui que nous regardons, c'est à lui que nous donnons notre vie aujourd'hui. Jésus a prédit à ses disciples, dans Matthieu 13, verset 9, par exemple, qu'il témoignerait de lui. Même devant les plus hautes autorités religieuses ou politiques. Et c'est arrivé. Les apôtres, très vite, ont été amenés devant des rois. Paul a été amené devant l'empereur de Rome, le plus puissant homme de l'époque. Mais dans quelles conditions étaient-ils? Ils étaient prisonniers. Ils étaient à la merci de ce pouvoir devant lequel il témoignait de Jésus. Et il n'avait pas peur. Quelque chose s'est passé après la résurrection de Jésus. Avant, ils avaient peur. Après, ils n'avaient plus peur. Acte 4, verset 13, nous dit « Et les autorités religieuses de Jérusalem constataient l'assurance de Pierre et de Jean. » Et se rendant compte qu'il s'agissait d'hommes sans instruction et de gens quelconques, ils en étaient étonnés. Ils reconnaissaient en eux des compagnons de Jésus. Pierre et Jean, des gens comme vous et moi, c'est bien précisé. Même vous êtes plus intelligents que Pierre et Jean parce que vous avez été à l'école. Mais eux n'étaient pas à l'école. Ils ne savaient ni lire ni écrire. Et ils ont témoigné de Jésus devant les plus hauts pouvoirs de Jérusalem, le pouvoir de la capitale. Ils ont été des témoins sans avoir peur des menaces. L'apôtre Paul a témoigné aussi devant des rois avant d'être emmené à Rome. Il a témoigné devant le roi Agrippa. On trouve ça dans Acte 26, verset 19. Il était prisonnier à Césarée, maritime. Ceux qui étaient avec moi en Israël ont visité même l'endroit où il était détenu. En tout cas, l'endroit où il a parlé devant le roi Agrippa. Ça, nous pourrons mettre les pieds sur le même carrelage. C'est dans Acte 26, verset 19. Il dit à ce roi, « Dès lors, roi Agrippa, je n'ai pas résisté à cette vision céleste. » Le motif de ce qui n'a plus peur, c'est qu'il a vu une vision céleste à laquelle il n'a pas résisté. Et la vision céleste, ça veut dire Jésus-Christ. Jésus-Christ est pour nous celui que nous regardons dans le ciel, qui fait qu'on ne lui résiste pas et on est courageux devant les forces de ce monde, les pouvoirs de ce monde. C'est ça qui fait une église. Qu'on regarde à Jésus au-dessus de tout pouvoir, de toute puissance, que chaque église existe parce qu'il y a eu un appel de Dieu qui est venu du ciel et qui est toujours actuellement vient du ciel. Sinon, l'église n'existe pas. Voilà pourquoi quand Paul écrit à une église, il commence toujours par rendre grâce. Par exemple, 1 Corinthiens 1, verset 4, « Je rends grâce à Dieu sans cesse à votre sujet pour la grâce qui vous a été donnée dans le Christ Jésus. » Pourtant, dans plusieurs de ces églises, notamment à Corinthe, d'où vient ce verset, il y avait des problèmes, il y avait des péchés graves. Mais l'apôtre Paul commence par rendre grâce à Dieu, car il est conscient que ces églises existent, parce qu'il y a eu un appel d'en haut. Et que cet appel, lui, l'apôtre Paul, n'en est pas le maître. Si quelqu'un est croyant, c'est qu'il n'a pas pu faire autrement. Le Seigneur lui a parlé depuis le ciel, où il est maintenant élevé. Et cet appel, il est difficile d'y résister. Et cet appel ne saurait être anéanti par les menaces, les peurs que nous aurions dans ce monde. Récemment, le verset pour la journée que j'avais lu, c'était dans Psaume 40, verset 5. C'est une phrase toute simple. Mais parfois, une phrase toute simple fait beaucoup de bien si nous prenons le temps d'y revenir, de la méditer, de ne pas l'oublier. Psaume 40, verset 5. Heureux l'homme qui a pris le Seigneur comme son assurance. Le psalmiste parle à Dieu et dit, qu'est-ce qu'il est heureux l'homme? Et en parlant de l'homme, il emploie le mot en hébreu qui veut dire un homme viril, un homme fort, un héros. Bien même l'homme fort a besoin du Seigneur comme son assurance. Et le psalmiste dit, qu'est-ce qui est heureux cet homme-là, qui prend le Seigneur comme son assurance. Ça veut dire qu'il a vraiment une connaissance du Seigneur, qu'il y a une assurance dans le Seigneur qui ne fera jamais défaut à l'être humain. C'est lui la véritable sécurité de l'être humain. Sécurité au milieu de l'insécurité qui peut aller grandissante encore dans notre pays, dans le monde. Nous voyons qu'il y a beaucoup d'insécurité. Eh bien, nous sommes là, appelés à un bonheur au cœur de l'insécurité. Parce que le bonheur n'est pas dans les sécurités de ce monde, mais dans la sécurité que nous offre le Dieu vivant. Et la sécurité n'est pas non plus dans le fait de nous couper des autres, de faire notre propre chasse gardée, là, et de nous blinder contre toute relation qui pourrait nous blesser, parce que Jésus nous dit, comme le Père m'a envoyé dans le monde, moi aussi, je vous ai envoyé dans le monde. Alors, maintenant, je termine avec deux témoignages. Le premier, c'est celui d'un rabbin, pendant la terrible persécution des Juifs sous Antiochus Épiphane, au IIe siècle avant Jésus-Christ. À un moment donné, étudier la Torah était puni de mort. Et un rabbin a continué à l'étudier comme si de rien n'était. Ses disciples effrayés lui demandèrent s'il n'avait pas peur. Il leur répondit, « Notre élément vital, c'est la Torah. Si vous demandiez à un poisson de sortir de l'eau, sous prétexte qu'il y a du danger dans l'eau et qu'il serait plus en sécurité sur la berge. Il vous répondrait que votre conseil est stupide. parce qu'il serait bien plus en danger hors de son élément vital, qui est l'eau. Un autre témoignage, c'est celui de Gereon Goldman, un chrétien allemand, enrôlé dans les SS pendant la guerre. Il a eu le courage d'écrire à Himmler lui-même. Il disait dans sa lettre, « Je constate que le national-socialisme est incompatible avec la foi chrétienne. » Dans son bataillon, il y avait d'autres chrétiens comme lui. Il leur a demandé s'ils voulaient signer cette lettre. Ils n'ont pas eu le courage. Il a signé lui-même, il a envoyé la lettre à Himmler. Et celui-ci, de façon étonnante, n'a pas fait fusiller, il a muté dans la Wehrmacht, dans l'armée allemande. Par la suite, ce bataillon SS qu'il avait quitté a dû rejoindre le front russe. Tous furent tués au combat. Gereon a vécu par la suite encore d'autres circonstances. Chaque fois, à cause de sa foi en Jésus-Christ, qu'il n'avait pas peur d'afficher, il a été en danger. Et plusieurs fois, à l'article de la mort, chaque fois Dieu l'a sauvé. Vraiment, miraculeusement, il y avait beaucoup de gens qui priaient pour lui. Et après la guerre, il est devenu missionnaire au Japon. Et sa biographie, il l'a écrite sous le titre en anglais « In the shadow of his wings », à l'ombre de ses ailes. En français, c'est paru sous le titre « Un franciscain chez les SS ». Comme bien d'autres chrétiens, il est un exemple de ce que le courage de rester fidèle à Jésus-Christ est notre meilleure protection.